soir, les groupes parlementaires UDPS et Alliés ainsi que UNC et Alliés décident de ne plus prendre part aux plénières qui se pencheront sur l'organisation des élections ou la révision constitutionnelle. Dans une déclaration faite ce dimanche, ils demandent aussi à leurs représentants à la CENI de suspendre leur participation aux travaux de cette institution. Quelle analyse faire de cette décision de l'opposition et quel pourrait être son impact sur les travaux à l'Assemblée nationale? C'est le thème que nous vous proposons ce soir. Pour en parler, je reçois Maître Grégoire Mirindi, député national de l'opposition et membre du groupe parlementaire UNC et Alliés à l'Assemblée nationale. Honorable Mirindi, bonsoir.
Bonsoir, messieurs les journalistes.
Maître Boniface Balamagué, député national de la majorité présidentielle et président du groupe parlementaire Reconstruction, Éveil et Écologie à l'Assemblée nationale. Honorable Balamagué, bonsoir.
Bonsoir.
Il va nous rejoindre dans un tout petit moment. Lui, c'est le professeur Bob Kabamba. Il est professeur à l'Université de Liège en Belgique. Il est aussi coordonnateur de la cellule d'appui politologique en Afrique centrale. À tous, bienvenue dans votre émission.
Pour participer à l'émission, appelez le 081 051 66 78 ou contactez-nous par SMS 081 051 57 78 ou par mail dec@radiocapi.net.
Je le disais dans le sommaire, les groupes parlementaires UDPS et Alliés ainsi que UNC et Alliés décident de ne plus prendre part aux plénières qui se pencheront sur l'organisation des élections ou la révision constitutionnelle. Ils demandent aussi à leurs représentants à la CENI de suspendre leur participation aux travaux de cette institution. Dans une déclaration faite dimanche à Kinshasa, ces députés ont dénoncé le non-respect des textes dans la conduite des affaires de l'État. On écoute le président du groupe parlementaire UDPS et Alliés, Sami Badibanga, au micro de
les deux décisions qui ont été prises, à savoir la non-participation à toute plénière dont l'ordre du jour fera allusion à l'organisation des élections ou encore à la révision constitutionnelle. Et le deuxième point, c'est le retrait de nos représentants de la CENI. Pas le retrait, mais la suspension de toute activité à la CENI. Donc pour le moment, tout est suspendu à la CENI.
Pour quel résultat?
J'espère que le pouvoir pourra comprendre et que nous allons engager des discussions. Des questions plus précises, ce n'est pas un dialogue ouvert, c'est un dialogue dans la perspective des élections. Premièrement, avoir un calendrier global acceptable par tous. Deuxièmement, avoir une loi électorale adoptée par consensus. Et troisièmement, ne pas toucher à la Constitution et ne pas avoir de changement de Constitution.
Est-ce que votre mot d'ordre sera entendu par tous les députés de l'opposition?
Je l'espère bien. On est à un tournant majeur de notre pays.
Honorable Grégoire Mirindi, vous êtes député national de l'opposition et membre du groupe parlementaire UNC et Alliés à l'Assemblée nationale. Honorable, qu'est-ce qui justifie votre décision?
Merci, messieurs les journalistes, et à travers vous, je salue tous les auditeurs de la radio Okapi. En même temps, je salue mon contradicteur ou mon co-débatteur, honorable Balamagué Nkolo, avec qui nous sommes sur ce plateau. En fait, comme vous le savez, hier dimanche, les députés de l'opposition se sont réunis pour prendre position par rapport à la révision de la loi électorale et de la révision de la Constitution. En ce qui concerne la loi électorale, nous voulons vous dire que la Constitution est claire là-dessus. Et je mets en défi mon co-débatteur et je l'invite à lire sa Constitution, je crois à l'article 5. À l'article 5 de notre Constitution, alinéa 3, il est dit, la loi fixe les conditions d'organisation des élections et du référendum. Ça, c'est la Constitution. L'article, la loi. La Constitution ne dit pas les lois. Mais qu'est-ce que la majorité nous propose? La loi électorale a été scindée en trois propositions. Il y a une partie, finalement, qui va concerner les élections présidentielles et les élections législatives. Une partie qui concerne, ou un projet qui concerne les élections sénatoriales, provinciales, une autre partie qui va concerner les municipales, urbaines et locales, quelque chose comme ça. Donc, dans un texte, nous en avons trois propositions. Ça, c'est le premier élément. Nous violons la Constitution. C'est pourquoi nous disons dans notre communiqué la violation de la Constitution. La Constitution dit la loi et non les lois. Deuxième élément, c'est que sur le plan de la technique, nous avons une loi électorale qui est en vigueur.
Allez-y, honorable.
Merci. Sur le plan technique, nous avons une loi électorale qui est en vigueur et qui n'a jamais été abrogée. Alors, nous nous posons la question. Une loi est en vigueur. On nous amène trois propositions dans une autre loi. Laquelle de ces trois lois va abroger la loi actuelle? Et quelle est l'opportunité? Quelle est l'opportunité? Alors, troisième élément, c'est un élément technique des procédures au Parlement. C'est qu'en mai 2012, le collègue Sessanga a initié une proposition de loi électorale. Une proposition, je dis bien. Il s'est fait notifier. Ce projet, cette proposition a été communiquée au gouvernement conformément à l'article 130 de la Constitution, qui oblige l'Assemblée nationale de communiquer la proposition d'un député pour que le gouvernement puisse apposer ses observations. Mais ces observations sont facultatives, de telle sorte que si les 15 jours s'écoulent et que le gouvernement n'a rien dit, tant mieux, s'il a dit quelque chose, lors de l'examen, on en tient compte. On peut ne pas en tenir compte, bien entendu, j'allais dire. Et donc, voilà les questions par rapport à cette loi qui pose problème. Alors, en ce qui concerne la Constitution, vous êtes témoin, vous êtes journaliste. Depuis que nous suspectons la démarche, aucun membre de la majorité n'a eu le courage d'accepter, que ce soit le président de la République, que ce soit le premier ministre, que ce soit les porte-parole du gouvernement, que ce soit le président de l'Assemblée nationale. Tous ont toujours récité qu'il n'y a pas révision en vue de la Constitution. Mais on est passé par plusieurs mécanismes suspects qui nous rassuraient en fait qu'il y a quelque chose qui s'est préparé, notamment le livre qui a été publié par le secrétaire général
le professeur Bochab.
Le professeur Bochab, notamment les concertations. Nous, là où on exigeait un dialogue, l'accord existe, l'accord cadre. On nous amène dans des concertations. En fait, on a pris un long parcours pour parachuter, mais comme les jours marchent contre l'espoir, et un mal est mal et demi, on est coincé. On tergiverse, mais en tout cas, les jours poussent, alors ils viennent de sortir dans leur craquant pour finalement nous imposer une révision. Je crois que le collègue Balamagé, qui est de la majorité, va nous édifier sur l'opportunité de cette révision.
Alors, quel est l'objectif que vous poursuivez dans tout ça?
Nous, comme opposition.
Oui. Dans cette démarche de suspendre votre participation, de demander à vos membres de suspendre leur participation aux travaux de la CENI, c'est quoi l'objectif?
Vous savez, on parle de l'Assemblée nationale parce qu'il y a opposition, parce qu'il y a majorité. C'est les deux familles. On peut dire qu'il y a aussi des non-inscrits, mais c'est ça d'abord. C'est les votes, même si on dit que nous sommes minoritaires, mais c'est notre vote qui donne la légitimité à la décision, aux décisions ou à la décision prise par l'Assemblée nationale. Donc, si ça devient de l'unanimité à l'Assemblée nationale, il n'y a plus de Parlement. Donc ça devient, une caisse de résonance. Il n'y a plus contradiction, il n'y a plus dialogue, il n'y a plus écoute. Donc toutes les valeurs républicaines s'écroulent à l'Assemblée nationale.
Voilà. Honorable Boniface Balamagué, vous êtes député national de la majorité présidentielle et président du groupe parlementaire Reconstruction, Éveil et Écologie à l'Assemblée nationale. Vous venez de suivre l'honorable Mirindi. Comment vous analysez la décision de l'opposition?
Merci, cher ami. Je voudrais saluer tous les auditeurs et dire que il n'y a pas à s'échauffer pour rien. La décision de groupe parlementaire INC et allié, groupe parlementaire IDEPES, procède de l'inscription au calendrier de la session de septembre de 4 projets de loi qui viennent du gouvernement au motif que il y a une première proposition de notre éminent collègue Sessanga sur la même matière. Voici ce que dit le règlement intérieur et la constitution à ce propos. L'article 136 de notre règlement intérieur dit que s'il y a plusieurs initiatives sur la même matière, le bureau privilégie soit la première initiative en date, donc celle-ci Sangha, soit celle qui est la mieux élaborée.
Celle du gouvernement, soit dit en passant.
Ça, c'est vous qui le dites. Mais il y a une troisième option, c'est que le bureau, par le même article, peut engager des consultations entre les initiateurs pour dégager l'option à prendre, soit corriger, soit alors fusionner les propositions en question. Eh bien, depuis que notre collègue a introduit sa proposition, il a été en contact permanent avec le président de l'Assemblée nationale.
En 2012.
Déjà en 2012. Et en 2012, après examen, parce qu'il y a un bureau technique, c'est une question de procédure. Le bureau technique a examiné en disant, bon, c'est recevable. On a envoyé au gouvernement pour ses avis et considérations, dans les délais. Le gouvernement a dit à cette date-là, je préfère déposer d'autres projets relatifs à la même matière. Alors, le gouvernement a envoyé plus tard trois projets. Et je voudrais rappeler que le président, le bureau de notre assemblée, continue à interagir entre les deux initiateurs, le gouvernement et l'honorable Sesanga. Pas plus tard que ce matin, il a, je pense, que le président de l'Assemblée a pu recevoir le ministre de l'Intérieur. Donc, la procédure se suit. Mais je voudrais préciser une chose. Si le président le fait, c'est juste pour respecter d'abord certains articles de la Constitution et du règlement intérieur, mais aussi il y a d'autres articles qui le fondent à décider pour l'inscription uniquement de lois, de projets qui viennent du gouvernement. L'article 117 de la Constitution, que mon collègue qui était un brillant juriste n'ignore pas, dit que lorsque le gouvernement envoie un projet et qu'il demande qu'il soit examiné en priorité, et c'est le cas, il doit l'inscrire au calendrier de la session. Et donc, si le président continue à interagir, c'est tout simplement
c'est
parce
par
que...
bonne foi. C'est,
non, vraiment par bonne foi. Et l'article 117, là, il est clair. Et donc, ceci découle du fait que c'est le gouvernement, et c'est toujours la Constitution qui l'est dit, c'est le gouvernement de la République qui détermine la politique de la nation. Donc, on est lié. Lorsque des projets viennent du gouvernement, atterrissent au bureau de l'Assemblée nationale, le bureau de l'Assemblée nationale et la plénière que nous constituons ne peut que inscrire ça au calendrier. Alors, où est-ce qu'on a péché à la procédure et aux lois de la République? Je ne pense pas, on s'achoppe pour rien. Déclarer, inscrire ça au calendrier, c'est une chose. Discuter de la recevabilité en plénière, c'est une autre chose. Déclarer ces lois fondées, c'est une autre chose. Et on n'en est pas. On n'est pas encore là.
Et donc, l'opposition s'agite pour rien.
Pour rien, vraiment, pour rien. Sortir de la salle, les débats, c'est dans la salle, c'est pas à l'extérieur.
Alors, il vous posait tout à l'heure la question concernant l'opportunité tous ces mécanismes qu'il a qualifiés de suspects autour de la révision constitutionnelle, notamment.
Non, le terme suspect lui-même dit que ce qu'ils disent n'est assis sur rien du tout. Il s'y pose, il suspecte. Alors qu'il n'y a rien. Il suspecte. Il me pose des questions. Ces questions-là. La loi sera inscrite au calendrier, le ministre de l'Intérieur viendra à l'Assemblée nationale. Et nous serons en face de lui. Il va exposer l'économie de ses projets de loi. Et nous allons lui poser des questions. S'il nous convainc, nous allons déclarer recevable. S'il ne nous convainc pas, nous allons déclarer recevable. Ce n'est pas la première fois que ça arrive d'ailleurs. Et on va aller au fond, s'il est cher. Mais on n'est pas encore là. Alors, et là où il faut discuter du fond, ce n'est pas ici, c'est à l'Assemblée nationale.
Merci.
Et les audiences, les plénières sont publiques.
Merci, honorable. Ah. Professeur Bob Kabamba, bonsoir, vous êtes en ligne.
Oui, bonsoir, monsieur le journaliste, et bonsoir aux auditeurs et auditrices.
Merci professeur. Je rappelle que vous êtes professeur à l'Université de Liège en Belgique, également coordonnateur de la cellule d'appui politologique en Afrique centrale. Professeur, vous venez de suivre les honorables Balamagué et Mirindi. Quelle est votre analyse à ce niveau du débat?
Merci pour la question. C'est que il y a deux choses qu'il faut souligner dans ce que j'entends. Dans un premier temps, il y a toujours dans tout parlement une opposition et une minorité. Et de ce que j'entends, l'opposition souligne un problème technique lié à l'interprétation du règlement d'ordre intérieur et de ce fait provoque des actions qui débouchent donc sur la suspension de leur de la participation aux travaux de l'Assemblée nationale et de la CENI. De ce point de vue-là, il faut remarquer que c'est tout à fait légal et normal que l'opposition puisse demander ou bien essayer de mettre en place ce genre d'action. Partout, dans tous les parlements du monde, il y a toujours, bien sûr, une majorité et une opposition. Et l'opposition, son rôle, au-delà de s'opposer, c'est aussi d'essayer de ne pas faire adopter des projets qu'ils ne soutiennent pas. Et tout ça, pour ça, il y a plusieurs techniques. Par exemple, il y a dans certains parlements où vous avez des députés qui prennent la parole pendant deux jours sans s'arrêter pour essayer d'encombrer la procédure d'adoption d'un texte. Vous avez par exemple d'autres parlements qui déposent des milliers et des milliers d'amendements pour empêcher l'adoption d'un texte et pour le faire traîner. Et autre technique aussi, il y a des parlementaires qui décident de quitter une assemblée pour empêcher par exemple l'adoption d'un texte. L'adoption de ce texte-là requiert la majorité qui sont des majorités qualitatives qui ne permettent pas de pouvoir passer si un certain nombre de députés ne sont pas présents. Et alors ici, dans le cas présent, je pense pas la question qu'il faut se poser, est-ce que les propositions d'action de l'opposition sont efficaces ou pas? J'ai doute, parce que tout simplement, vous le savez aussi bien que moi, qu'il y a au niveau donc de la composition du Parlement de l'Assemblée nationale, l'opposition, même si elle quitte la salle, elle ne peut pas empêcher les travaux de pouvoir continuer à travaux de l'Assemblée nationale. Par ailleurs aussi, il y a toute une question liée au statut du parlementaire. Il ne faut pas oublier que le mandat du parlementaire est tout mandat impératif est nul selon la Constitution. Et puis, grosso modo, le parlementaire est libre de ne pas suivre les injonctions qui viendraient d'un parti politique. Et la même chose qui concerne la Sénat. Néanmoins, j'aimerais revenir sur un point qui a été soulevé sur la question de la loi qui porte l'organisation des élections en disant que le Parlement a trois lois, le gouvernement a déposé trois lois au lieu de déposer une loi, en argumentant que le texte constitutionnel parle bien de la loi. Je voudrais souligner ici que quand le texte constitutionnel parle de la loi, c'est uniquement pour souligner qu'il s'agit de la compétence du législatif. Donc c'est le Parlement qui doit légiférer sur la loi. La loi, c'est un terme générique. De la même façon, si vous regardez par exemple l'article 23 de cette même Constitution qui dit que le Parlement doit aussi régir à travers la loi, et puis on cite toute une série de matières. Si je comprends bien l'argument de l'opposition, ça veut dire par exemple que la loi qui doit être au Parlement, parce qu'il y a un point sur l'article 123 qui dit que le Parlement doit faire une loi sur l'enseignement et la santé. Est-ce que c'est une obligation que le Parlement doit obligatoirement faire une loi et la santé, ou bien tout simplement pour dire que la loi doit émaner du Parlement pour pouvoir régir les questions de l'enseignement et la question de la santé? Alors, s'il y a une loi, oui, il y a une loi, ce n'est pas constitutionnel. S'il y a deux lois, ce n'est pas constitutionnel, il peut y en avoir même quatre. C'est pour ça, par exemple, qu'on parle de codes électoraux.
Professeur Bob Kabamba, la réalisation va tenter de vous rappeler, parce que la qualité de votre ligne a tendance à se détériorer. Entre-temps, honorable Mirindi, nous allons prendre pour vous cette réaction qui nous vient du Sud Kivu.
Maurice de Bukavu, En suspendant leur participation au débat, les députés de l'opposition donnent l'impression de fuir la contradiction en participant aux plénières, ce qui aurait permis au peuple de juger de la pertinence de leur position, bien qu'au finish, le résultat serait le même, c'est-à-dire s'abstenir lors du vote au cas où ils sont présents dans l'hémicycle et ne pas prendre part au vote étant absent de l'hémicycle dans le deuxième cas. Bref, la politique de la chaise vide ne paye pas, dit-on. Du choc des idées, déjà eu la lumière.
Réaction honorable Mirindi, c'est une fuite en avant, comme a dit l'honorable Balamagui.
Moi, je crois que, avant de rencontrer les préoccupations de Maurice, je voudrais dire ceci aux collègues, parce que le débat est technique. Il a évoqué l'article, je ne peux pas ne pas en train de parler. Il parle de l'article 117. Qui parle que lorsque l'Assemblée nationale est saisie par priorité à la demande du gouvernement, c'est le projet en principe du gouvernement qui doit être pris en compte. Mais il faut lire l'article, je l'ai. Dans cet article, on ne parle pas que du projet, on parle aussi de la proposition. Or, la proposition de ce enregistrement a été communiquée depuis mars 2012 au gouvernement. Pourquoi le gouvernement n'a pas demandé dans ses observations, pourquoi il n'a pas demandé à l'Assemblée nationale d'inscrire la proposition de sangle par priorité.
Et donc, vous pensez que le président de l'Assemblée, le bureau de l'Assemblée a fait du tripotage?
Non, non, c'est pour vous montrer que c'est l'argument qu'il a avancé ne tient pas. De dire que c'est le gouvernement, en fait, qui demande par priorité que nous puissions examiner. Donc, une façon de nous dire qu'on ne pourra pas examiner la proposition de ce sangle et que nous devons privilégier le projet qui vient du gouvernement. La loi est claire, l'inscription, si vous me permettez, par priorité, à l'ordre du jour de chacune des chambres, d'un projet de loi, d'une proposition de loi, ou d'une déclaration de politique générale et des droits sur le gouvernement, après délibération en conseil des ministres, en fait la demande. C'est-à-dire que si c'est une proposition, c'est une initiative d'un député qui a été communiquée au gouvernement, et dans ses observations, le gouvernement dit, moi je ne fais pas un projet, mais je vous demande, vous, Assemblée nationale, d'inscrire par priorité la proposition. C'est ça. Donc, dans les deux cas, les conditions sont claires. Ça, c'est le premier élément. Deuxième élément, c'est que le professeur vient de dire que la loi, c'est un terme juridique. Je concède, c'est son point de vue, mais moi, je ne le suis pas. Et je vais vous dire pourquoi. En fait, lorsque on a organisé les élections en 2006 et en 2011, on avait combien de lois électorales? Sur base de quelle constitution nous avons organisé ces élections? C'est sur base de cette constitution qui parle d'une loi. Pourquoi c'est maintenant aujourd'hui qu'on parle des lois? À l'époque, nous avions une loi qui organisait les élections, une seule loi, les élections présidentielles, les élections législatives, les élections des gouverneurs, des sénateurs, et jusqu'à laquelle aux élections locales, et c'est une seule loi.
Et donc pour vous, il y a intention de tricher?
Non, c'est constitutionnel, ce n'est pas pour moi, c'est la constitution, il est là, qu'on lise, je ne vante rien, c'est la constitution qui le dit, ce n'est pas une invention. De deux, il prétend que il y a eu au niveau de l'Assemblée nationale une sorte de refus d'inscription de la proposition. Non. Quand il siège à la conférence des présidents, lui il est attitré pour le témoigner parce qu'il siège là-bas. À la conférence des présidents, il était entendu qu'on mette ça d'abord en suspens, en attendant que, en fait, on puisse contacter Sessang et les autres pour voir comment on va trouver un compromis. Mais ironie du sort, en plénière, toutes ces matières-là étaient dans les calendriers. Comment croire qu'il n'y a pas eu une sorte de forcing? Donc c'est ça la problématique.
Alors par rapport à Maurice, les auditeurs qui ne sont pas dans ces débats très techniques, peut-être qui peuvent même les dépasser à un certain niveau, qu'est-ce que vous répondez à Maurice qui pense que c'est une fuite en avant? L'honorable Balamagui a dit qu'il fallait attendre de juger de la recevabilité, ainsi de suite, de suivre la procédure normale.
Et je voudrais dire à Maurice que, d'abord, le fait d'être à l'hémicycle, nous sommes tous des Congolais, les députés de l'opposition, c'est de leur droit de participer aux plénières, c'est réglementaire, c'est constitutionnel. Mais lorsque le député constate qu'il y a violation intentionnelle et flagrante de la loi, ils doivent sonner l'alerte. Et c'est ce que nous faisons. Premier élément. Deuxième élément, il ne faudrait pas que M. Maurice fasse croire qu'à la majorité, tout le monde est unanime pour la révision.
tout le monde n'est pas unanime non plus dans la majorité. Tout le monde n'est pas unanime également sur toutes les années de la République. Donc, il y a quand même une certaine opinion. Il y a des gens qui ont pris des positions claires. Donc, nous, sous Nikito, ce n'est pas que nous fuyons. D'ailleurs, pourquoi? Parce que nous avons dénoncé ça à la conférence des présidents. Mais parce que nous avons fait une conférence des présidents. Non, excusez, monsieur le journaliste. Parce que vous organisez justement... Le premier impact de notre position, c'est que vous organisez cette émission.
Mais en un mot, le professeur Bob Kabamba a dit que cette démarche souvent n'était pas efficace.
Moi, je vous dis que lui, il dit qu'il y a plusieurs techniques. Moi, quand il me dit qu'il faut la provocation des amendements, on connaît ça à quoi ça aboutit, on ne peut pas les examiner. Quand il dit que ce n'est pas efficace, comment il peut évoluer une action qui n'a pas encore commencé? Nous menaçons de suspendre dès que c'est déposé. Mais nous n'avons pas encore suspendu parce que ce n'est pas encore déposé.
D'accord.
Alors, dès que c'est déposé, on verra ce qu'il y a là-dedans. Comme il nous rassure, les collègues, me rassure qu'il n'y a pas péril à la demeure, je le crois et nous attendons qu'on nous dépose le texte.
Honorable Balamagué, nous prenons pour vous cette réaction qui nous vient de Beni au Nord Kivu.
J'appelle à partir de Beni dans la province du Nord Kivu. Moi, c'est Gérard Kambale Kazingoufo. Si l'UNC et l'UDPS peuvent s'attendre à suspendre leurs activités au Parlement et à la CENI, ça serait un vrai signal fort au président de la République qui doit comprendre qu'il est plus qu'urgent, qu'il doit lever l'équivoque en se prononçant devant une question aussi sensible pour éviter de répondre devant l'histoire en temps de chaos.
Réaction honorable Balamagué.
Bien, je vais réagir à la considération de mon frère Kambale. Mais avant d'y aller, je voudrais préciser une chose. La première chose, c'est que l'article 117 auquel mon frère fait référence dit que si le gouvernement demande l'examen en priorité, cet examen est de droit. Or, dans les cas d'espèce, le gouvernement a demandé l'examen en priorité de ses propres projets. Nous faisons quoi? Nous sommes liés par la Constitution. Il faut la respecter. Nous faisons quoi? Deuxième chose, le collègue dit que la loi, l'article 5 précise que la loi fixe les conditions d'organisation des élections et du référendum. Je voudrais préciser ceci. Pour les constitutionnalistes, ils savent bien que le constituant ne s'exprime pas comme on s'exprime dans tous les autres textes. Ce n'est pas de la matière administrative. Ce n'est pas du règlement. Ce n'est pas n'importe quel texte. Le constituant, quand il dit la loi, ce n'est pas pour dire une loi et une seule loi. Il dit simplement que cette matière-là est du domaine de la loi. C'est ce qu'il veut dire. Alors, et je suis parmi les gens qui ont contribué à la rédaction de cette constitution. C'est ce que nous avons voulu dire. Nous avons voulu dire donc que l'organisation des élections est du domaine de la loi. Ce n'est pas du domaine du règlement.
Voilà,
là, voyez-vous,
là, on risque
j'ai encore des minutes.
On risque de tomber honorable dans un juridisme qui risque de dépasser un tout petit peu les auditeurs. Mais revenons à la question de Gérard. Est-ce un signal fort pour la majorité, le président
non,
de la République,
fait,
qui doit se déterminer
le
par rapport au mécanisme suspect évoqué par l'honorable Méridien?
Le fait pour les deux groupes parlementaires, parce qu'il n'y en a que deux sur les quatre de l'opposition, qui déclarent sortir, ça n'a aucun impact.
Ça ne représente rien.
Non, ça n'a aucun impact. Suivez-moi. Nous sommes élus pour venir débattre. Et les séances sont publiques. Mon ami Mirindi et les autres collègues, dont je reconnais la brillance, l'intelligence, s'ils sont dans la salle, ils peuvent convaincre. Mais en restant dehors, ils ne font rien. La chaise vide, elle ne va rien payer. Et puis, ils sont, je voudrais les dire, ils sont à combien? Ils sont à combien? Parce que le quorum sera atteint. Et le vote, s'il doit se faire, le vote se fera sans eux. Mais ils causeront un dommage à la nation parce qu'ils n'auront pas donné leur position, leur point de vue. Ils auront diminué les droits. Je les invite à revenir. Parce qu'en réalité, c'est un mot d'ordre d'abord qui ne va pas aboutir. Tenez ceci. L'honorable Sabine Badibanga, le président de sécurité lui avait demandé de ne pas siéger à l'Assemblée nationale. Mais il siège, non?
Et donc,
c'est lui qui prend la décision. Mais je voudrais vous dire aussi que les amis à qui on a demandé de ne plus siéger à la CENI, qui sont de l'INC et de l'UDPS, pensez-vous qu'ils vont les suivre? Nous pouvons parier. Il y en a même un
qui a dit qu'il ne dépend plus, il n'était plus politique, il est maintenant indépendant, parce que c'est comme ça qu'il l'a dit. Donc ils ne suivront pas. Moi je les invite à venir débattre avec nous, peut-être qu'ils pourront convaincre. Et puis les débats n'ont même pas encore commencé.
Alors deux auditeurs pour vous, honorable Balamagué. Il y a Kassamba qui nous écrit de Bougna en province orientale qui dit « C'est imprudent de sécher l'hémicycle car la majorité imbue du principe selon lequel le chien aboie la caravane passe risque d'en profiter pour faire passer son projet machiavélique de révision de la Constitution dont le but n'est autre que de confisquer le pouvoir au peuple. »
Bien, d'abord quand on parle de la révision de la Constitution, il faut qu'on sache de quoi on parle. Parce que nos amis, les suspicieux, ils disent, on veut réviser l'article 220. Mais je suis au Parlement, président du groupe parlementaire. Je n'ai vu aucune initiative, soit du gouvernement, soit de l'Assemblée nationale ou du Sénat, soit du président de la République, qui veut réviser l'article 220. Je n'en ai pas encore vu. Et donc, moi, je ne peux pas supputer sur ce qui est virtuel, si ce qui n'est pas réel. Qui n'est pas réel. Ici, il s'agit de réviser d'élaborer la loi sur les élections. Et le gouvernement pense qu'il faut en faire trois lois, selon les scrutins, les provinces, les locales, par une seule et une même loi, les élections provinciales de gouverneurs et de sénateurs par une loi, les élections de présidentielles et de législatives par une seule loi. Voici de quoi il s'agit.
Et donc, en d'autres termes, honorable Balamagué, pour vous, l'absence de ces deux groupes parlementaires ne va influer en rien sur les travaux
Non, pour le besoin de la démocratie, nous avons besoin d'eux. Et pour répondre au mandat qui leur avait été donné par le peuple, ils doivent venir parce qu'ils ont été élus pour être dans l'hémicycle et pas recevoir des émoluments tout en étant dehors.
Et donc ils devraient même renoncer aux émoluments en principe.
C'est pas la première fois qu'ils le font. Et puis ils rentrent. Mais j'ai besoin de Mirindi. J'ai besoin de Sami Badibanga. J'ai besoin de tout ce monde-là.
Merci.
Nous devons débattre.
Merci. Il va vous répondre tout à l'heure. Professeur Bob Kabamba, est-ce que vous nous suivez?
Oui, je vous suis, merci.
J'espère que la qualité de votre ligne s'est améliorée. Professeur, nous prenons pour vous cette réaction qui nous vient de Kananga au Kasaï occidental.
Oui, c'est Kankonde à Kananga. Toutes ces prises de position par les uns et les autres ouvrent les lacunes que présente notre droit du point de vue interprétation dans la mesure où le législateur congolais ne mérite pas son texte. Ceci étant, le bureau de l'Assemblée doit, dans le cas d'espèce, chercher à trouver un compromis politique équilibré, car le Parlement n'est pas à confondre avec un ring politique.
Réaction, professeur.
Deux observations. Les aspects politiques et les aspects de droit. Il y a la possibilité de régler sur les aspects de droit de manière claire, sans ambiguïté. Ça veut dire que l'opposition peut pouvoir essayer de saisir, par exemple, la Cour constitutionnelle si elle trouve qu'il y a eu violation des textes. Et il y a la dimension politique, et la dimension politique veut dire que le président de l'Assemblée ou le bureau de l'Assemblée peut convoquer et discuter avec les groupes de l'opposition pour trouver un modus vivendi pour permettre à ce que l'opposition participe aux débats liés aux questions qui ont été soulevées. Et je voudrais quand même réinsister sur la question de la loi. De manière très claire, il n'y a pas d'ambiguïté. Si le Parlement adopte des lois, plusieurs lois par rapport à la loi électorale, c'est tout à fait légal. Et ce n'est pas anticonstitutionnel de pouvoir avoir plusieurs lois qui régissent une seule matière. Ça se voit dans plusieurs domaines, même dans la législation congolaise, il y a plusieurs domaines pour lesquels il y a plusieurs lois. Et j'insiste en disant sur la question de dire sur les modalités des actions des parlementaires, moi je suis d'avis que le fait de quitter le Parlement n'est pas efficace pour la bonne et simple raison que cela ne va pas empêcher le Parlement de fonctionner. Du fait que le quota de l'opposition ne permet pas de bloquer le fonctionnement des institutions parlementaires. Et c'est là où je voulais insister.
Alors, professeur, vous avez proposé, vous avez parlé des deux aspects, l'aspect de droit, l'aspect politique, mais il y a par exemple Pichu Chimanga qui nous écrit de Kisangani qui dit les différents partis politiques de l'opposition se sont décidés avec un grand retard, qu'ils arrêtent de nous distraire car leur décision n'a pas d'impact parce qu'ils avaient déjà légitimé ces institutions en participant aux différents travaux.
Oui et non. Même s'ils ont accepté de participer aux différents travaux, n'empêche que l'opposition garde quand même une marge de manœuvre dans l'exercice de leurs fonctions et dans le fonctionnement du Parlement. Par exemple, au niveau de la Chambre, au niveau de la conférence des présidents, comme on le voit tout à l'heure, où ils soulignent effectivement les questions dont on est en train d'aborder, de manière claire, il y a des espaces sur lesquels l'opposition peut jouer pour essayer d'influer la position de la majorité. Mais n'empêche aussi, c'est qu'il a insisté aussi sur la question du fait que tout mandat parlementaire n'est pas impératif. Ça veut dire, grosso modo, les parlementaires ne sont pas obligés de pouvoir obéir à des injonctions qui viennent des partis politiques. Et c'est de la même façon pour ce qui concerne la CENI. Lorsque l'opposition délègue des représentants à la CENI, c'est l'organe CENI qui est un organe indépendant et les différents membres qui sont dans la plénière et au bureau ne doivent pas, ne peuvent même pas obéir au fait aux injonctions qui viennent de partis. Cela enlèverait le caractère indépendant de l'institution CENI. Et je pense que c'est pour ça aussi que j'insiste en disant que ces différentes mesures ne sont pas nécessairement efficaces. Il y a d'autres mesures que l'opposition peut essayer de prendre pour essayer d'influer sur la position de la majorité et qui sont aussi des positions tout à fait légales et des positions aussi d'action politique que l'on trouve dans tous les systèmes politiques du monde. Ça peut être les recours au droit, tout comme ça peut être des manifestations, tout comme ça peut être toute une série d'actions qui peuvent être menées dans la légalité et dans le respect de la loi. On a vu quand même plusieurs actions des fois menées par l'opposition et pour lesquelles la majorité a suivi la position de l'opposition.
Professeur, il y a Maître Papi Kassema qui nous écrit de Kinshasa qui dit « La position de l'opposition est logique car elle s'est montrée prévoyante en évitant d'être responsable des conséquences qui découleront des points inscrits à l'ordre du jour qui sont sans doute revêtus de caractère suspect et dangereux, ce qui justifiera par ailleurs la politique de la chaise vide. Mais ma peur, c'est l'inconstance qui caractérise l'homme politique congolais qui change de position à tout moment. »
Alors, la logique, je ne pense pas qu'il faudrait dire logique dans ce sens qu'ils ont raison par rapport à l'action, par rapport à l'aboutissement de leur action. Logique dans ce sens-là en disant, ben oui, ils le veulent interpeller. Mais quand on dit logique, est-ce que ça va empêcher la dynamique de fonctionner? Est-ce que ça va empêcher le Parlement d'adopter les dispositions que l'opposition veut mettre en cause? Je ne pense pas, et c'est pour ça que je pense en disant logique, c'est une façon de dire que l'action, pour moi, n'est pas adaptée à la situation telle que l'opposition l'a définie. Ça veut dire, s'ils veulent obtenir le résultat de ne pas participer à ce débat, malheureusement, le débat va avoir lieu sans eux, et le débat, le Parlement pourra décider, et étant membre de ce Parlement, ils seront tenus des résultats obtenus lors du vote de ce Parlement par rapport à ces différents points.
Merci, professeur. Honorable Merindi, il y a Nyamazi Freddy Miigo qui dit « L'opposition vient de prendre une meilleure option si du moins elle va tenir jusqu'au bout sans se faire corrompre par la majorité et surtout que l'UDPS et les autres ne trahissent pas les autres. Penser que c'est la politique de la chaise vide, c'est faux car tous les coups sont permis pour faire entendre la voix du peuple congolais. »
Oui, je remercie les interventions de Nyamazi Freddy. Et je crois que j'aimerais répondre quand même avant que je n'insiste parce qu'en fait c'est une observation qui se fait, c'est pas une question. Quand on parle du nombre des députés, je ne sais pas de quoi on veut parler. On fait voir que parce que nous sommes minoritaires, mais l'histoire a démontré que ce sont des minorités qui ont révolutionné les idées. Ce n'est pas une leçon, il faut lire les faits historiques, l'histoire des faits historiques. De deux, je voudrais insister sur le débat technique par rapport au débat en rapport avec les lois.
Le collègue a dit que non, même dans l'hypothèse, parce que j'ai parlé de la proposition, il dit non, même dans cette hypothèse-là, c'est le projet du gouvernement qui prime. Alors, je lui pose la question. Sesanga introduit sa proposition en 2012. Qu'est-ce que le gouvernement en avait fait depuis qu'il a été soumis à son appréciation? Pourquoi seulement c'est sur son projet, alors que la Constitution lui donne la possibilité aussi de faire inscrire en priorité la proposition? Pourquoi on a attendu 2 ans, de 2011 à maintenant? Pourquoi? De deux, le professeur parle de l'indépendance de la CENI. Je crois que moi j'ai participé aux négociations qui ont mis ce bureau en place pour le compte de mon groupe parlementaire. La CENI est indépendante, la CENI est indépendante. C'est une chanson. La CENI a été politisée.
La CENI a été politisée.
Et je parle sous son contraire. Vous voyez sa configuration, ce qui compose la situation des partis politiques.
Et donc vous êtes complice.
Pardon?
Vous êtes complice.
Non, nous étions complices. Pourquoi? Parce qu'en fait, à l'époque, il fallait d'abord avoir la CENI. De deux, il fallait absolument qu'il y ait une sorte d'autocontrôle. Parce qu'en fait, ils voulaient nous imposer des gens, leurs propres personnes. Alors nous avons dit, si vous voulez biaiser la CENI, vous voulez tuer la CENI, alors on vous accompagne parce que c'est vous qui êtes à la majorité de tuer votre affaire. Mais nous avons dit, il faut laisser les gens neutres diriger la CENI. C'est Sauté qui avait insisté.
Il nous reste au moins de 4 minutes. Honorable Balamagui, répondez à l'honorable Merindi.
Bien. Je pense qu'on devrait se calmer un peu. Le nombre. Je parlais du nombre pourquoi? En parlant du nombre, je faisais allusion au quorum. Je voudrais dire que malgré leur absence dans l'hémicycle, ils sont autour de 60.
Et que ça ne changera pas grand-chose.
Le quorum sera atteint. Et l'Assemblée va procéder. Le débat va se tenir sans eux. Et c'est dommage pour le peuple. C'est dommage pour l'opinion qu'ils représentent. C'est dommage pour leurs électeurs. C'est dommage pour la nation. Parce que nous attendons dans cet hémicycle un débat contradictoire. Ce sera ouvert. Ils peuvent convaincre.
Et jusqu'où ils sont prêts à aller, selon vous?
On ne sait pas ce que l'Assemblée nationale fera de ce projet de loi. À ce stade-ci, on ne peut rien vous dire. Donc, il est nécessaire qu'ils viennent à l'Assemblée nationale travailler avec nous, parce que c'est pour ça que nous sommes là. Deuxième chose, appeler les responsables de la CENI de quitter la CENI ou de suspendre leurs travaux. Quelle corrélation l'examen d'une loi à l'Assemblée nationale peut avoir avec les membres de la CENI? Encore que les membres de la CENI, même s'ils sont issus de leur parti, ils avaient juré de devenir désormais des indépendants.
En guise de conclusion,
s'ils suivent leur mot d'ordre, ils auront démontré alors qu'ils ne sont pas indépendants.
Alors, en guise de conclusion, jusqu'où l'opposition est-elle prête à aller, d'après vous?
Non, je pense que c'est une tactique, mais qui ne va pas payer.
Ils n'ont pas tiré les leçons du passé, pour vous?
Non, c'est-à-dire, c'est de leur droit de ne pas venir, mais c'est à leur corps défendant. Je les invite sincèrement à rentrer dans l'hémicycle, à débattre avec nous, n'est-ce pas? Et puis pour les autres actions politiques, ce qui est essentiel pour notre population, pour l'opposition, c'est d'élaborer un projet dire au peuple congolais qu'en 2016, lorsque nous aurons des élections, voici le projet.
Pour l'alternance.
Oui, pour l'alternance. Merci, honorable. Ça, c'est la diversion.
Professeur Bob Kabamba, conclusion.
Ben juste demander peut-être à l'opposition de bien réfléchir, de bien calibrer leurs actions en fonction des objectifs qu'ils veulent atteindre. Si l'objectif est de bloquer l'adoption des différents textes, au lieu de là, des règlements intérieurs et de la Constitution et des lois, il y a d'autres actions pacifiques qui sont permises, qui peuvent permettre de pouvoir influer et de jouer sur l'opinion publique.
Merci, professeur honorable Merindi. Conclusion.
Bon, je voudrais simplement lui dire qu'entre nous et la CENI, il y a une corrélation. La CENI, comme il le sait, c'est une émanation. La loi d'abord et son investiture, c'est l'Assemblée nationale. Premier élément. Deuxième élément, les collègues ne doivent pas oublier dans quel contexte cette constitution a été faite. Ils doivent aider les chefs de l'État. Parce qu'on ne peut pas peut-être réviser la constitution contre ses propres intérêts.
Merci.
Donc le contexte est tel que réviser la constitution actuellement, c'est violer en fait la cohésion même.
Merci.
Les socles sur lesquels est fondé. Je l'ai dit parce qu'au moins lui il a négocié avec
Merci,
avec
Honorable. Merci monsieur d'avoir participé à cette émission. Dialogue entre Congolais, c'est terminé pour ce soir. Supervision Martin Sebujangwe, réalisation Guy Maté, Berry Franklin, Luchaka, mise en onde Jean-Claude Nsiala et Sylvain Baoguere, présentation et coordination Alain Rung-Mouchinch. Merci de votre attention. Au revoir.